Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Mon premier invité c'est Denis Martin Chabot pour son livre Berry Uqam et il est déjà en train de danser sur la musique de présentation, ce qui annonce une bonne demi-heure de conversation. Bonjour Pourquoi Denis Martin.
Bonjour, mais tu dansais toi aussi, j'en suis
fort. Oui, mais moi je le fais toutes les fois. En deuxième partie d'émission, on va recevoir Isabelle Leblanc qui a écrit et mis en scène la pièce de théâtre Rita au désert. Voilà, donc on en parle en deuxième partie d'émission, restez avec nous. Pour l'instant, on part en musique avec Ours qui nous joue, qui nous chante la cinquième saison.
De revoir cet endroit, chaque année en l'état, le plongeoir tout là-bas, et le sable de 5A, les gouttes d'eau et les carreaux. Cette image ne change pas.
Alors, Denis Martin, nous allons parler de ton livre Métro Berry Uqam. Oui. Avant que je lise un petit peu l'histoire, parce que tu es quand même sorti de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, il faut quand même que je te dise que quand j'ai refermé le livre, j'ai tout de suite pensé à ce qu'on appelle l'effet papillon. Tu sais, quand on dit que le battement d'une aile de papillon suffit à provoquer un tsunami ou une tornade aussi loin. Et c'est l'impression que j'en ai eue avec tous ces personnages et la surprise finale, et de voir aussi le... Alors d'abord je lis, après je t'en parle un petit peu plus. Un après-midi gluant, typique d'un été torride montréalais, la station de métro Berry-Uqam écrasée d'humidité. Centre nerveux du réseau de métro de la Société des Transports de Montréal, c'est ici que tout commence et que tout se termine. Une explosion. Qui et pourquoi ? Des personnages qui auraient tous les motifs du monde de perpétrer cet attentat se dévoilent dans les pages. Le dénouement surprend, et ça c'est sûr. Et avec ce suspense, Denis Martin Chabot nous propose un style bien différent de celui auquel il nous a habitués.
Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, et j'ai aimé dans cette histoire. Alors, on peut pas trop en parler parce que c'est
le défaut de ce genre de livre, parce qu'on ne peut pas révéler la finale.
On peut pas révéler tout ce qui s'y passe, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que dans tous ces personnages qui paraissent sortis d'on ne sait où, chacun bien différent dans leur coin, ont tous un lien qui les rassemble. À lire le livre pour en savoir un petit peu plus.
Oui, mais ça ressemble... En fait, je dis que je sors de ma zone de confort, puis en fait, tu sais que tous mes romans, ou à peu près, sauf l'Escale parisienne, c'est toujours plein de personnages. Tu te dis, mais pourquoi ils sont là? Et à la fin, on découvre pourquoi.
Oui, mais là, il y a encore plus. C'est vraiment... ça me rappelle une pièce de théâtre qui m'avait beaucoup marquée, dans laquelle on voyait plein de personnages. On se demandait... on comprenait leur histoire à chacun bien délimité. Puis d'un coup, c'est comme une caméra, tu sais, qui se resserre. On voit un plan large. Puis d'un coup, on voit un plan plus que sur une personne. Et puis après, on comprend tous les liens qui se tissent et le pourquoi à l'arrivée. Alors, et ton livre me fait penser à ça.
Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle... Je pense qu'on utilise le mot suspense ou suspense, sauf que l'événement est au début du livre. Et après, on essaie de comprendre pourquoi on est arrivé là. Et, parce que l'événement est vraiment là.
Ben oui.
Dès le début, la station de métro explose. Ça, quand même, on va quand même... on ne va pas le cacher parce que c'est quand même dans la quatrième de couverture. Et c'est étonnant. Parce que je me suis amusé à créer tout plein de personnages qui sont interreliés, quelque part, et qui ont tous et toutes les raisons du monde de vouloir se venger et faire sauter la station de métro.
En même temps, je vais faire une petite anecdote qui n'a rien à voir. Je ne veux pas te donner des pouvoirs que tu n'as pas. Mais depuis que j'ai terminé ce livre, eh bien, depuis hier que je suis revenu lundi, il y a sans arrêt des problèmes au métro Berry-UQAM, de la fumée, des problèmes de retard, des choses qui ne fonctionnent pas, des gens qu'on fait sortir à toute vitesse. Je dis, c'est pas possible, on se croirait dans le roman de Denis Martin.
Mais là, je te rassure, le roman n'est pas encore disponible en librairie. Alors, il est censé être là cette semaine. Je pense qu'il va être sur les étagères d'ici lundi.
D'accord.
Alors, je suis certain qu'il a perdu.
Pour moi qui l'avais lu, j'ai dit, mais c'est impossible. On va faire un lien avec le livre de Denis Martin.
Mais c'est vraiment bizarre. Comment on arrive à écrire ce genre d'histoire? Je ne sais pas comment tout ça m'est passé par la tête. En fait, oui, j'en ai une bonne idée. Je me rappelle très bien quand m'est venue l'inspiration. Justement, il y avait une panne de métro. Il y a quand même quelques années de ça. J'étais à la station Berry-UQAM, sur le quai de la station verte, en direction est, donc vers Honoré-Beaugrand.
Oui.
Et il y a cette belle fresque des fondateurs de Montréal. Et je la trouve formidable, je la trouve belle. Et puis cette journée-là, je me rappelle, ils avaient finalement remplacé les luminaires et on pouvait la voir au complet.
D'accord.
Et très jolie en passant. C'est parce qu'habituellement, il y a toujours 3 ou 4 luminaires qui manquent et puis on n'en voit qu'une partie. C'est un beau vitrail. C'est très beau. Et je ne sais pas, c'est là où je me suis mis à fabuler. Mais si ça explosait, tout ça. Et là, c'est comme ça que l'histoire a commencé.
Alors, en dehors du métro... Alors, sortons du métro ou restons-y si tu veux.
Mais le métro, c'est un personnage.
Le métro est un personnage, mais le métro, il existe. Mais c'est plutôt l'œil aiguisé avec lequel tu décris tous tes personnages. Ils sont tellement vrais que je les voyais. Je les voyais agir, vivre et j'avais une compréhension pour chacun d'entre eux.
Oui. Ben, il faut dire que... ça fait quand même maintenant... écoute, je suis dans la vieille quarantaine, 40 et 20. Ça fait vraiment 40 ans que je pratique le journalisme. Et je pense que toute ma vie, j'ai toujours observé les gens. Parfois en les jugeant, j'avoue, on n'est pas parfait. De plus en plus, maintenant, je regarde...
Mais tu me dirais le contraire, je ne te croirais pas.
Mais en fait, maintenant, mais je reconnais mes biais. Je reconnais quand je vois quelqu'un, je dis « Ah, non, tu juges la personne, tu ne la connais pas. » Mais... ça me permet aussi de me faire une description. Je prends beaucoup de notes sur ce que je vois dans chaque jour, même encore à maintenant.
Oui.
Et Je vais donner un petit exemple qui n'est pas relié au livre, mais un jour comme ça, j'étais dans un bus, le bus 139, pour ne pas le nommer. Il y a un type qui est assis sur la banquette avant, tu sais, celle qui est sur le long,
Oui.
et dans le temps des vieux bus, là.
Oui.
Oui. Et puis, je la voyais plancher par en avant, puis je me disais, je regardais l'espace entre son dos et la banquette. Je me disais, mon Dieu, on pourrait mettre un sac à dos, et ça fitterait. Et c'est peut-être rigolo, puis après, je me
Mais dans le
suis
sac à dos, t'es pas obligé de mettre une bombe.
dit, non, mais je me suis dit, tu m'as raconté une histoire, mais peut-être que la raison pourquoi, c'est qu'il traîne le poids de sa vie sur son dos, et c'est pour ça qu'il est courbé comme ça. Et je me suis mis à me faire des idées sur. Et d'ailleurs, j'ai écrit un petit texte là-dessus qui va un jour paraître. Et je me suis mis à raconter une histoire. Alors, oui, j'ai passé un jugement sur la personne. Je ne l'ai pas jugé en disant, ben, c'est pas une bonne personne. Je me suis juste
Non,
dit,
tu l'as imaginé, quoi,
je l'ai imaginé.
tu t'es fait un roman dessus, enfin une histoire dessus.
Je fais ça tous les jours. C'est plus fort que moi. Je me
Oui.
raconte des histoires en rencontre. Et cette fois-ci, je ne sais pas comment je suis tombé dans une histoire de policière, de suspense. Et aussi les personnages, ben là, on peut peut-être en parler, des personnages
Ben,
qui sont
les
détestables
personnes.
par bout, hein?
Oui et non, parce que quoi qu'on cherche à cacher, on a tous ce côté détestable. Qu'on ne veut pas se reconnaître, qu'on met sous le tapis, ou alors on l'affirme et puis on dit oui, voilà, aujourd'hui j'ai été détestable. Bat. C'est pas tous les jours,
Oui,
ça
mais les
fait
gens
pas la
font pas ça,
totalité de la
non.
personne.
Non, les gens ont des jardins secrets.
Oui,
Et puis moi, je suis un très, très bon jardinier. Pas pour faire pousser des tomates, mais je suis
mais
capable
pour aller
aller
déterrer les.
déterrer les secrets de tout le monde.
Mais alors, les personnages sont magnifiques de comment je pourrais dire? J'ai ce côté. À la fois, je suis attendrie, je comprends là où ils sont, et puis à la fois, j'ai envie de les rejeter contre le mur. Mais
Ouais.
peut-être parce que c'est une partie de quelque chose qui est en moi aussi, j'en sais rien. Mais ça a été c'était très incroyable, ces personnages-là, je voyais. Et puis, tu parles d'un personnage qui travaille au métro Berri-UQAM
Oui.
et qui sert les clients. Eh ben, mais je te dirai après. Allez, surprise. D'abord, on part en musique, puis je te dirai après, je te donnerai mon exemple après.
D'accord.
D'accord? C'est fait exprès. Ça fait bien de faire attendre. Ça fait comme dans le livre. Gilles Vigneault nous chante le Veilleur.
Le
Nous
soir
récite.
tombé sur le village, j'aime à sortir et faire un tour. C'est comme un tout petit voyage qui mène au chemin de la tour. Quand on demandait à Jorey pourquoi il voulait vivre en l'air, il disait: dormez, moi je veille. Ça fait bientôt 40 hivers. Le soir tombait, Jorey chantait: dormez en paix. Oula, veilleur, es-tu de garde? Et chaque soir il me répond: bien sûr, je veille et je regarde jusqu'au tréfonds des horizons. Un soir de brouillard en automne, dis-moi, veilleur, tu ne vois rien? Crois-moi, l'ami, la brume est bonne pour trouver d'où le danger vient. Le soir tombait, Jorey chantait: dormez en paix. Ça ne vient pas toujours d'ailleurs. Quand il n'est pas reconnaissable, on regarde à l'intérieur. Car c'est la vieille peur humaine et c'est la peur de l'étranger. C'est ma peur, la vôtre, la sienne. et c'est le vrai nom du danger. C'est ma peur, la leur et la tienne, et c'est le vrai nom du danger. Le soir tombait, j'oreille chantait, dormez en paix.
Alors, Denis Martin, on revient sur Métro Berri-UQAM. Alors, ce qui m'a fait sourire, c'est une aventure qui m'est arrivée avant-hier. J'avais lu ton livre, donc tu parles de quelqu'un qui travaille au Métro Berri-UQAM, qui est là parce qu'il y a eu des ratages dans sa vie à cause d'un accident. Enfin bref, on verra les personnages quand on les décrit. Et on peut comprendre son côté bougon et d'envoyer bouler les gens, même si je pense que tu ne dois pas amener tes problèmes sur ton lieu de travail. Mais bon, oui, des fois, dire, on peut
il
pas...
Il est changeur. Et tu sais que les changeurs n'ont pas toujours une bonne réputation dans le métro à Montréal. Mais celui-là, il est vraiment exceptionnel. Oui.
Parce que je rentre dans le métro et je tombe sur une dame qui travaille à ce moment-là, puis qui répond d'un ton... Et aussitôt, j'ai dit... Pense au livre de Denis Martin. Si ça se trouve, cette madame, elle a vécu quelque chose de très difficile et elle n'arrive pas à s'en débarrasser.
Ouais.
Donc, j'ai fait mon plus beau sourire en lui disant « Merci beaucoup ». Et je pense que je l'ai détendue dans le même temps que tu as dit ça. Plutôt que d'avoir envie de lui dire « Voilà.
En fait, je fais toujours attention pour ne pas caricaturer les gens dans mes personnages.
Ouais, c'était juste cette fois, je signale bien, parce que c'est pas souvent.
Mais je dis bien que, parce que j'ai fait une petite réflexion tout à l'heure, c'est clair que de travailler comme changeur dans le métro à Montréal, quand on ne voit pas le soleil de la journée, parce que c'est tout en souterrain, et qu'on doit aussi composer avec de la clientèle, pas toujours facile. C'est dur un peu sur le système. Alors, disons que j'ai tout simplement extrapolé avec un personnage qui, oui, est détestable avec les gens, mais on comprend aussi, ça ne justifie pas ce qu'il fait aux gens, parce qu'il est vraiment épouvantable, mais on comprend un peu d'où ça vient.
Non, ça ne justifie pas, mais on comprend sa douleur, et le gars, au lieu de travailler pour sortir de sa douleur, il s'y enfonce dedans, même il s'y complaît.
Oui, tout à fait. Jusqu'à la fin, parce que les personnages évoluent toujours dans mes livres. À la fin, quand il découvre ce qu'il doit découvrir, on ne donne pas plus de...
On ne dit rien.
Et qu'il se rend compte de tout ça, et oups, on découvre tout à coup un autre côté de lui.
Mais c'est sûr, on a tous deux faces, plusieurs facettes, peux pas être, tu n'es pas que l'homme qui est là assis avec le sourire, tu es aussi un autre homme à l'extérieur chez toi, en réaction à des choses, quand tu fais du jugement et que tu reviens dessus, c'est encore une autre partie de toi, enfin, on est tout ça à la fois, donc bien sûr qu'on peut travailler, mais en même temps, c'est très bien... Je trouve que tes personnages sont beaux, sont horribles dans leur attitude, mais ils sont beaux parce qu'ils sont bien percés à jour, bien décrits.
Est-ce que tu as deviné avant la fin qui?
Ah, pas du tout.
Je suis content. Mais quand tu regardes, quand tu arrives à la fin, puis tu découvres qui, et je dis rien de plus, mais quand tu découvres qui, tu te dis « Ah, mon Dieu, j'ai laissé des traces tout le long. »
Si, j'ai imaginé une moitié de vérité, c'est-à-dire j'ai imaginé le personnage, un personnage qui... Hein, mais pas de cette façon-là, je pensais de façon volontaire, enfin de façon... bref, je veux pas dire...
C'est ça le problème de ce genre de livre, on peut en parler, mais on peut pas tout dire.
C'est vraiment... La fin est surprenante, mais très intéressante aussi. Et c'est tous ces personnages, le personnage que tu décris, on peut en parler, là, celui qui est chercheur et qui a le malheur de se faire agresser parce qu'il est arabe sans qu'il ait fait aucun geste ou quoi que
tout
ce
à fait.
Soit.
Ouais.
Et que cette attitude d'un personnage, c'est-à-dire ça peut arriver aussi, tu te fais insulter ou quelqu'un te traite mal parce que tu es toi, mais c'est seulement la personne qui te traite mal. Tous les autres qui sont autour ne sont pas pareils.
Ouais,
or, c'est vite fait de faire un amalgame en disant ces gens, tout ça, c'est je déteste, moi personnellement, je déteste tellement ça quand on dit « Ah mais oui, mais vous savez pas » ou quand on me dit « Ah ben oui, mais toi, t'es française, alors bien sûr ». Mais quoi? Mais des Français, t'en trouves des millions de différents, comme on trouve ben des millions de gens différents au Québec.
Mais dans ton cas, c'est parce qu'on peut te taquiner en te traitant de français. Mais ça, c'est autre chose. Mais oui, il y a des gens.
Il y a des gens extérieurs à la radio qui ne me connaissent pas en tant que femme de radio qui parlent en disant bah oui, mais peu importe, je m'en fous, je le prends. C'est eux, c'est leur avis, ça reste.
Mais tu vois qu'il y a beaucoup de moi dans ce roman, malgré tout, même si je dis que je sors de ma zone de confort, c'est ma vision du monde qui ressort, cette vision qui rejette le patriarcat, qui rejette le racisme, qui rejette l'intolérance. Tout ça est là-dedans parce que oui, j'ai un personnage arabe. C'est clair qu'on pense que c'est lui parce que, ben oui, et en plus, il est musulman, il est pratiquant.
C'est trop voyant, mais en même temps.
Mais je l'ai mis là justement pour, pour vous mener en bateau.
Ben, tout le monde nous mène en bateau, tous. Chacun aurait eu la possibilité d'exhaler sa colère de cette manière-là. Ce livre-là me fait vraiment penser au fait que... comment dire ça simplement? C'est que les choses, c'est à nous de les changer. C'est pas dehors, c'est pas les autres qui vont venir et qui vont dire « Ah ben tiens, je t'aide pour ça, je t'aide pour ça. » Non. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je sais qu'on l'a trop dit et que c'est très agaçant à entendre parce que quand on n'a plus rien ou quand on a l'impression de plus rien avoir, on se sent mal et on a envie que d'autres tendent la main. Mais quand on mord la main qui arrive, la main, on ne la voit pas.
Et tous mes personnages se retrouvent devant ce fossé.
Oui.
Est-ce que tu sautes? Est-ce que tu continues? Comment tu t'en sors? Il n'y a plus d'espoir.
Ils réfléchissent pas parce qu'ils voient que le mur.
Ouais.
Et ils voient pas qu'il y a une autre possibilité de faire.
Mais tu sais, la résilience.
Le changement, la faute est toujours celle de l'autre. C'est
mais
trop facile.
Mais tu sais, la résilience, le courage, la facilité de voir autre chose, c'est pas toujours donné à tout le monde de le faire. On n'est pas tous fabriqués de la même façon. Alors, dans ce
livre-là,
mais
on peut tous le faire.
Mais on peut tous le faire, oui.
Parce qu'il ne faut pas dire, ah ben, toi, tu peux y arriver parce que si, parce que ça, ce n'est pas vrai. On peut tous le faire à partir du moment où on le décide.
Mm-hmm.
Mais c'est beaucoup plus facile de s'attacher une pierre au cou que de se relever.
Mm.
Pour certains.
D'accord.
Et certaines. Donc, et je trouve que là, tu as vraiment bien cerné tes personnages. Et moi, personnellement, je ne sais pas ce que t'en ont dit les autres qui en ont lu, mais moi, personnellement, j'ai bien aimé.
Ah ben, merci.
Bravo.
Merci. J'ai bien aimé l'écrire, mais merci de l'avoir aimé. Ouais.
Non, j'ai bien aimé et puis j'ai trouvé ça intéressant. Je l'ai lu du début à la fin, ça se lit très facilement.
Oui, puis il n'est pas très long, hein. Il fait 150 quelques pages, hein. C'est pas très long. Oui,
ouais. Bah, écoute, ce sera pour le prochain, parce que tu peux te lancer dans des choses comme ça de temps en temps.
Ça va arriver.
C'est pas mal aussi, la preuve. Ah. T'as fait ton essai d'y arriver.
Ben oui.
Est-ce qu'on peut dire que là maintenant tu es content de toi?
Je suis content de moi. Ah oui, mais tu sais, j'ai appris à être
content de
toi, bref.
Content
ouais.
de ce que tu as écrit. Tu peux l'être.
Je suis très content, je suis très satisfait du résultat. J'aime beaucoup ça, beaucoup ce que ça donne. Et puis je suis fier d'être sorti de ma zone de confort une fois dans ma vie. Là.
Eh bien, bravo, voilà. On va partir en musique maintenant. Et merci à toi. Donc, Sylvie Paquette qui chante Son île. Et on se retrouve tout de suite après.
Prends souvent la mer, cœur naufragé, fragile. Et soudain l'horizon est retrouvé son île. Prend souvent la mer, cœur naufragé, fragile. Et soudain l'horizon est retrouvé son île. Elle prit sa peine et son manteau. Elle prit la porte. Sans dire un mot, sans se retourner, elle prit lentement l'escalier, lança dans le vent toutes ses clés, sans se retourner. On prend souvent la mer, cœur naufragé. Et chavire la raison, la vie jamais facile. On prend souvent la mer, cœur naufragé, fragile. Et soudain l'horizon est retrouvé son île. respiration est la plus grande des décisions. Pour se retrouver, elle prit un taxi dans la nuit, un avion pour nos pays. Pour se retrouver, on prend souvent la mer comme naufragé. La vie jamais facile. On prend souvent la mer comme naufragé, fragile. Et soudain l'horizon est retrouvé son île.
Voilà, donc on vient d'écouter Sylvie Paquette, Son île. Donc c'est son prochain album, c'est ça Maurice? Ok, donc restez avec nous parce que dans la prochaine demi-heure, eh bien, un sujet qui va t'intéresser aussi, Denis Martin, mais tu vas entendre de cette pièce de théâtre qui s'appelle Rita au désert et qui a été écrite pour parler de... Comment dire? Mais pour parler de ces envies qu'on attend des fois très tardivement avant de les réaliser, puis du jugement, puis de plein d'autres choses, on va discuter de tout ça. Alors restez avec nous dans un instant, on reçoit Isabelle Leblanc.
Les Faramineux avec Arlette Farah.
Quand tu m'oublies, on s'était promis à la vie, on s'était promis à la vie, à la vie, à la vie, à la vie, à la vie. Qu'on s'aime, viens, moi je te pique droite, dans le cœur, bang, dans le corps, droit, dans le viseur, dans le mille, dans le mille, dans le mille, dans le mille.
Adrénaline, dans mes yeux bruns, des larmes s'écoulent de mes pupilles, du sel marin, enivre tes papilles. Touche le creux de mes reins, échoué sur ton île, prisonnière de tes mains. Personne ne me dresse,
personne ne me dresse. tiens, on laisse.
Et tu me dis, on laisse.
Tes vagues me caressent.
Tes vagues me caressent.
J'envoie des SOS.
J'envoie des SOS.
Personne ne me dressera.
Personne ne me dressera.
Mais Dieu aime tester.
Mais Dieu aime tester.
Plus personne ne me testa.
Alors, on vient d'écouter Claire Laffut qui nous chantait Adrénaline. Et là, on se retrouve avec Isabelle Leblanc. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Ça va bien ?
Ça va bien, merci. Et vous ?
Ah ben oui, alors on est très intrigués. Alors, je suis là avec Denis Martin Chabot qui était mon invité de la première demi-heure. Et on est très intrigués par l'histoire de Rita au désert.
Oui.
Oui. Ben voilà, c'est une pièce que j'ai écrite, dont je viens de terminer l'adaptation, qui est née d'un court roman que j'ai écrit, que j'ai terminé il y a 2 ans. Et puis il y a Luce Pelletier, comme ça, du Théâtre de l'Opsis, qui m'a invité donc à adapter le texte pour l'amener à la scène. Et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés comme ça au 4 sous. C'est une idée, je dirais que la genèse de cette idée-là, elle vient d'une réflexion que je me suis passée il y a quelques années déjà, où je me suis dit « Ah, il est possible que dans ma vie, je joue jamais au golf. » Et à partir de cette réflexion-là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça dit de moi si je ne joue pas au golf ?» Et là, mon esprit s'est mis à tourner un peu, et puis je me disais que c'est ça, peut-être qu'une chose qu'on réalise pas, qu'une chose jamais réalisée pouvait construire une identité au même titre, peut-être avec la même valeur que ce qui avait été
que quand on le réalise
ou réalisé. Je me disais que ça faisait partie de nous et que ça nous définissait. Toutes ces choses qui sont pas forcément des regrets, qui sont juste des faits. Qui dit que peut-être que je jouerai pas au golf, peut-être que j'irai jamais à Madagascar. Alors, qu'est-ce que ça dit de moi? Et là-dessus, j'ai construit des personnages. Il y a aussi une nouvelle de Melville qui s'appelle Bartleby, une toute petite nouvelle qui raconte l'histoire d'un homme qui, comme ça, reste toute la journée debout au milieu du bureau des avocats à regarder par une fenêtre. On sait pas pourquoi il ne fait rien. C'est un personnage dont je pouvais pas m'expliquer la psychologie, qui m'intriguait beaucoup et qui est devenu un peu la figure de cette Rita, de cette femme d'une cinquantaine d'années qui va se faire choisir pour participer à un rallye automobile.
J'aime ça parce que et puis j'ai à discuter dessus parce que dans l'histoire, c'est marqué à 53 ans, Rita Houle rêve de faire son entrée dans le monde et de devenir enfin une adulte. Mais nous, notre rêve, est-ce que c'est pas toujours de rester un enfant et de garder son cœur d'enfant?
Oui, excuse-moi, c'est Denis Martin ici, on en discutait hors antenne.
Il dit pourquoi?
Pourquoi devenir un adulte?
je pense qu'elle avait envie de certaines responsabilités. Je pense que c'est en fait un désir peut-être de liberté, de responsabilité, mais d'émancipation en fait.
Oui.
Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entendre pour moi, cette idée de devenir
adulte.
Une adulte. Et je sais que c'est quelque chose qui se fait des fois très, très tard, qui se fait plus à 18 ans, qui se fait à 30, à 40, à 50 ans, cette espèce de liberté.
Est-ce qu'on sait vraiment à 17, 18 ans ce qu'on veut vraiment faire? C'est bien la vie qui nous donne, on s'ouvre sur des rencontres, sur des choses qui se passent dans notre vie, et du coup, ça nous donne envie d'aller plus loin. Cette envie-là, on ne peut pas l'avoir sans avoir vieilli un peu.
Oui, absolument, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. C'est les épreuves, c'est les joies, les douleurs qui nous construisent aussi.
Alors donc, elle décide de participer à un rallye automobile, pas n'importe quel rallye automobile, hein, le rallye automobile qui se déroule à travers le désert de Gobi.
Oui.
Est-ce que vous y êtes déjà allé, vous, personnellement, dans le désert?
Dans le désert, je suis allée, j'ai touché un peu au Sahel, j'ai touché allée déjà au Burkina Faso, j'étais allée en Tunisie aussi déjà, mais une vraie expérience de désert, non. Je l'ai rêvé, mais je ne l'ai pas vécu, justement.
Oui. Il n'est pas trop tard.
C'est Fernando Pessoa qui dit « Des fois, il vaut mieux rêver d'être roi qu'être roi. »
Oui.
C'est ce genre aussi de réflexion qui a été une nourriture aussi pour l'écriture de ce spectacle-là.
Alors, quand on dit que dans ce spectacle, elle a une soudaine popularité, c'est parce qu'elle peut y participer et on présume qu'elle gagne alors.
Ça, je peux pas tout vous raconter, mais en tout cas, il y a un journaliste sportif qui travaille pour un petit journal de province qui s'intéresse à elle et qui est rempli d'ambition. Il veut devenir écrivain depuis toujours. Il entend parler de Rita Hull et par hasard, il se rend compte en fait que c'est une lointaine cousine et il se dit... C'est parfait, je vais faire d'elle une star et elle va faire de moi enfin un écrivain. Il veut écrire la biographie de Rita Hull et la suivre dans ses aventures. Et là, ben évidemment, ça va pas se passer exactement comme il souhaite parce que il s'est construit lui son histoire et la figure de cette héroïne que devrait être Rita Hull. Et Rita Hull, elle va pas tout à fait répondre à ce que Lucien espère.
C'est jamais ça, parce que chaque fois qu'on projette un devenir sur quelqu'un, ce n'est que notre projection personnelle. L'autre, il n'est pas au courant.
C'est un petit peu au cœur de ça, c'est-à-dire l'épreuve du réel.
Oui.
Y a quelque chose, c'est assez central dans la pièce. Et comment qu'on peut espérer ou nos rêves rencontrent ce qu'est la réalité. C'est une histoire aussi qui est née d'un accompagnement que j'ai fait moi avec ma mère qui était malade ces dernières années et puis de me demander, d'être traversée par mon idée que j'ai d'une mère, ou en tout cas d'une relation d'une mère et sa fille, et celle que je vis réellement au quotidien avec elle. Donc, tout ça m'a inspirée.
Pour vous aider. Bon, on fait une petite pause musicale. On revient dans un instant. Restez avec nous.
Très bien.
Donc, on va écouter Dr. Dre qui nous chante Tête à haut.
L'honneur tout le monde qui jalouille, c'est bon Dieu qui baille la vie. La force, la coule, la cala chargée, c'est pas joli n'a pas roulé. Chaque monde qui joue pali, c'est vous mais qui fait nous chanter. Jouer pas tout bien, c'est nous clairer. N'a pas bas débattre pour moi si n'a pas arrivé. Parle de tête en état ça.
Alors, nous voici de retour avec Isabelle Leblanc. Donc, Isabelle, Denis Martin, une question pour vous.
Oui, alors Isabelle, moi, je suis toujours fasciné parce que je suis moi-même auteur de romans. Et c'est tout un processus d'écrire un roman. J'ai écrit une pièce de théâtre, mais je n'ai jamais pris un de mes propres romans et de l'adapter au théâtre. Alors, quelle sorte de processus ça requiert tout ça?
Isabelle?
Oups.
Ah!
On a perdu,
Isabelle. On l'a perdu. Allez, un petit bout le temps de la rappeler et puis on revient. Alors Isabelle, on vous a retrouvé?
Oui.
Alors Denis Martin avait une question pour vous, il va la recommencer.
Ben oui. Alors Isabelle, moi je suis moi-même écrivain, auteur de romans, et puis j'ai aussi écrit une pièce de théâtre à part. Mais je suis toujours fasciné parce que c'est tellement deux styles très différents. La sémiologie d'un et de l'autre n'est pas la même chose. Alors comment vous vous y êtes pris là? Parce que, comme je dis, ça ne doit pas être simple. Et surtout que c'est son propre texte.
Oui.
Adapter son propre texte, c'est pas évident là.
Oui, ben alors dans le roman, dans le co-roman, il y avait un narrateur donc qui était un peu dans les limbes, qui nous parlait de nulle part. Donc la première question que je me suis posée, c'est où est-ce que je place ce narrateur-là dans la pièce, comment il devient concret, et dans quel lieu, il va nous raconter. Le titre, c'est Rita au désert, mais le vrai personnage de la pièce, c'est le biographe, donc qui s'appelle Lucien Champion. Mm-hmm. Et donc, j'ai placé ce biographe, ce petit journaliste sportif dans une salle des presses. Et donc, il va nous raconter l'histoire, en fait, son désir d'histoire avec Rita les aventures de Rita Hull à partir de ce lieu-là. Voilà. Alors, c'est sûr que la pièce conserve, je dirais, un caractère littéraire un peu dans le récit qui est raconté. Mais il y a j'ai créé des dialogues, j'ai créé de l'action, mais j'ai pas voulu, en fait, tout en adaptant, en trouvant un lieu, puis en créant des situations nouvelles. Il y a eu de la réécriture, mais j'ai voulu garder ce caractère-là du récit de Rita Hull.
D'accord, je comprends. Tu comprends?
Oui, non, je comprends. C'est quand même fascinant. Et ça, je suis toujours l'habitude de vous voir, de tutoyer les gens. Hein. J'ai pris cette habitude-là depuis que je suis à la radio ici.
Non, mais il n'y a pas de problème.
Mais ça t'a pris combien de temps? Parce que j'imagine qu'écrire le roman, c'est une chose, mais après ça, l'adaptation, ça s'est fait comment?
Ben, ça a été, je dirais que ça s'est fait sur environ une année.
D'accord.
Mais bon, je travaillais pas toujours dessus, mais c'est comme si il avait fallu que je laisse le roman s'effacer un peu, disparaître un peu de ma mémoire. Donc, il y a eu, je sais pas, peut-être 5 ou 6 versions de la pièce de théâtre Alors, il y a des personnages que j'avais conservés. Il y avait la mère de Rita Hull qui était dans le roman. Donc, pendant un moment, elle a fait partie des deux premières versions. Cette femme était toujours là. Puis après, j'ai décidé de concentrer l'action autour de Lucien. En fait, il y a un moment, Rita Hull n'était même pas sur scène. J'étais dans l'écriture d'un monologue. Peut-être que c'était la COVID qui m'a fait écrire comme ça.
C'est possible.
Et puis, je me suis dit, non, il faut que Rita soit présente. Il faut qu'elle soit là. Oui. Donc, voilà.
Ben oui, quand même. Au moins, leur rencontre à tous les deux aussi.
Ouais.
Oui,
comment ils se sont connus, parce que cette pièce-là, j'allais vous demander quel est votre lien avec le théâtre de l'Opsis, parce que ça fait partie d'un cycle des territoires féminins, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je pense que c'est sur 2 ou 3 ans, Luce Pelletier invite des femmes, des écritures de femmes, et puis voilà. L'Opsis, je le connais depuis plusieurs années pour être allé voir des spectacles, bien sûr, mais aussi parce que Luce m'avait déjà invité à faire une mise en scène autour de la figure d'Orestre. Mais ça fait plusieurs années de ça. Donc voilà, je suis gâtée, en fait, et très reconnaissante de pouvoir être produite par ce théâtre-là. Vraiment, et puis d'être accueilli au Katsu.
Oui, au Katsu, parce qu'il paraît qu'au théâtre de Katsu, j'ai lu ça, dès qu'ils ont entendu la lecture du texte, ils ont tout de suite dit oui.
Oui, ben oui, ouais, ça me fait plaisir. Ça a été assez rapide quand même, là, cette décision-là. Et puis après, ben tout s'est enchaîné assez rapidement. J'ai une super belle équipe d'acteurs, d'actrices, de concepteurs. Donc vraiment, je suis bien, bien entourée.
Maintenant, une question pratico-pratique. Je n'ai pas lu ton roman. Est-ce que ça serait mieux que j'attende d'avoir vu la pièce et puis lire le roman après?
Ben, le roman, il est d'abord, il n'est pas encore publié.
Ah bon?
Donc, va falloir que tu vois la pièce.
J'aurais pas le choix. D'accord.
Et puis, voilà, je sais pas encore si je ferai éditer ou la pièce ou le roman. C'est pas quelque chose, ou les deux, c'est pas quelque chose sur laquelle je me suis penchée encore. Là, mais
partir en tournée aussi. Parce que là, elle joue donc au théâtre de Katsu du 16 novembre au 4 décembre.
C'est ça.
Donc, ça laisse du temps pour y aller. Et puis, alors moi, personnellement, contrairement à toi, j'aime mieux aller m'asseoir au théâtre et vivre avec des êtres humains qui sont sur scène et qui me font passer des émotions et qui me racontent quelque chose. Et je préfère lire après si je dois lire plutôt que le contraire.
En fait, l'expérience peut être intéressante des deux côtés.
C'est vrai.
Moi, je me rappelle d'avoir vu des adaptations au cinéma ou avoir vu au théâtre des adaptations de pièces de livres. Et moi, quand j'ai lu, j'avais tout. Moi, je me fais un théâtre
un
dans ma
tête.
J'avais déjà tout imaginé comment les gens se. Là, je vois sur scène, mon Dieu, mais j'étais tellement à côté de la traque.
C'est ça le métier du metteur en scène.
Ce qui est intéressant, particulièrement dans cet exercice-là que je propose, c'est que. Le plaisir de la lecture, je dirais, il est encore au théâtre parce que par son caractère quand même de récit littéraire, il y a l'imagination du spectateur qui est pas le lecteur à ce moment-là, qui est spectateur, mais il va être vécu quand même aussi un peu comme un lecteur parce que l'imagination est vraiment convoquée.
Mais oui,
et
puis on
l'amène à s'imaginer les choses.
On vit au rythme des comédiens. En tout cas, ça fait envie d'aller voir Rita au désert. Donc, du 16 novembre au 4 décembre, on arrive à la fin de cette entrevue, Isabelle.
Oui.
Et puis,
merci beaucoup.
Merci beaucoup et puis pour tout ça. Puis on vous souhaite plein de bonnes chances parce que je présume que maintenant, ça doit être le moment un peu stressant. Le 16, c'est bientôt.
Au dire Cambronne, le mot de Cambronne.
Oui, le mot de Cambronne,
Je le prends, d'accord.
Merci.
D'accord.
Merci Isabelle, au revoir.
Au revoir.
Alors, on va partir en musique avec, j'essaye de le lire correctement, Ramon Chicharón et Natasha Canapé-Fontaine qui nous chantent Contigo escapare.
Que tu presencia a mí me lleva. Lejos, bien lejos, a las estrellas. Y paso al lado de unos planetas. Y todos ellos en su frecuencia. Yeah.
vayamos un tiempo atrás. Yeah, 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 yeah,
Voilà, donc nous sommes à la fin de cette émission, Denis Martin Chabot. Alors, merci beaucoup. On répète le titre de ton livre,
Métro Berry-UQAM.
Allez-y, oui. vous allez voir, ça se lit très vite et c'est super intéressant. Et téléphonez-moi si vous avez deviné la fin. On dit aussi merci à Isabelle Leblanc pour la pièce de théâtre Rita au désert au Théâtre de Quatre-Sous. Alors, allez-y, c'est bientôt, ça commence le 16 et vous avez jusqu'au 4 décembre. Alors, vous avez le temps d'y aller. Merci Maurice Bolduc pour les chansons, la musique. Et puis, merci à vous toutes et tous qui nous suivez au jour le jour. Merci beaucoup. Alors, on se donne rendez-vous demain.
Et nous, c'est la semaine prochaine.
C'est la semaine prochaine, mais là, tu viens comme chroniqueur. Aujourd'hui, tu étais mon invité.
Tout à fait.
Merci beaucoup à toutes et tous. Au revoir, à demain.